Histoire vivante. Une émission proposée par Laurent Huguenin-Elie.
La découverte des manuscrits de la Mer Morte au milieu du XXe siècle sur le site de Qumran continue de fasciner le monde entier. Cet ensemble de parchemins et de fragments de papyrus retrouvés dans des grottes nous ramène aux sources du judaïsme rabbinique et du christianisme primitif. Qui sont les auteurs de ces manuscrits? Dans quelles circonstances ont-ils été rédigés? Quelles techniques scientifiques nous permettent de les identifier? Lenora Krief est allée à la rencontre de Michael Langlois, maître de conférences à l'Université de Strasbourg, chercheur associé au CNRS et Collège de France. Spécialiste de littérature hébraïque et araméenne, il dirige la collection « L'écriture de la Bible » aux éditions du Cerf. Michael Langlois a notamment co-signé l'ouvrage « Qumran, le secret des manuscrits de la Mer Morte » édité par la Bibliothèque nationale de France. Cette semaine, l'aventure de la Bible. Soyez les bienvenus.
Michael Langlois, vous êtes docteur en sciences historiques et philologiques. Vous êtes spécialisé dans les recherches en lien avec la Bible et son histoire. Qu'est-ce qui vous a passionné dans l'étude de ces textes sacrés?
Alors, ce qui m'a passionné, c'est de remonter aux origines, de comprendre qui a écrit la Bible, pourquoi ces textes-là. D'autant que ce sont des textes qui ont façonné notre civilisation, notre culture. Moi-même, dans mon éducation religieuse depuis que je suis enfant, je baigne dedans, je suis tombé dans la marmite, comme on dit chez les Gaulois. Et donc forcément, le fait de découvrir l'envers du décor ou l'épaisseur historique, ça pour moi c'est un plaisir rare et qui n'a pas de fin en plus. C'est quelque chose que je continue à faire avec délectation.
À partir de quand les scientifiques se sont-ils interrogés sur les auteurs de la Bible ?
Alors la question se pose déjà dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'au tournant de notre ère, on voit des auteurs juifs comme Philon d'Alexandrie, qui vit à peu près à l'époque de Jésus, ou Flavius Joseph, qui vit quelques dizaines d'années plus tard, se poser la question de savoir qui a écrit les premiers livres de la Bible, la Torah de Moïse, le Pentateuque. Et pour eux, la réponse est très claire, c'est Moïse. C'est Moïse lui-même qui est l'auteur du Pentateuque, y compris des passages qui relatent sa mort. Alors évidemment, pour arriver à justifier le fait que Moïse parle lui-même de sa mort, ils sont obligés de dire qu'il était prophète. Voilà, que Dieu lui a révélé avant les événements, donc il a pu écrire tout ça. Bien sûr, assez vite, d'autres hypothèses se font jour. On dit non, il y a quand même quelques versets que Moïse lui-même n'a pas écrits. Alors on pense à Josué, l'auxiliaire de Moïse, son successeur, en disant « bah oui, Josué, il a fini finalement le Pentateuque qui a été écrit par Moïse, à part quelques versets ». Et puis après on dit « oui, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre », on pense à Esdras, le scribe Esdras, qui est à la tête de la communauté juive après l'exil à Babylone, l'exil du 6e siècle avant Jésus-Christ. On dit « mais c'est lui qui a écrit peut-être le Pentateuque ». Et puis on finit même par se dire « après tout, il a peut-être écrit même la Bible ». Dans son ensemble. Donc vous voyez qu'en fait, avec les siècles, plus le temps passe et plus on commence à remettre en question le fait de savoir qui a écrit quel livre dans la Bible. Donc cette question va traverser les siècles effectivement, et on voit l'un ou l'autre rabbin qui discute de cette question-là, mais c'est Spinoza qui va lui développer cette théorie selon laquelle c'est Esdras en fait qui a tout écrit, et en fait Moïse n'a même jamais existé. Ce qui vaudra à Spinoza de se faire exclure de sa communauté juive.
Michael Langlois, en 1947, des centaines de manuscrits sont retrouvés en Cisjordanie, à Qumran, sur les falaises rocheuses de la Mer Morte. Pourquoi parle-t-on de la découverte archéologique la plus sensationnelle des temps modernes ?
Cette découverte est effectivement extraordinaire parce qu'elle nous permet de nous plonger dans l'époque de rédaction de la Bible. Auparavant, avant cette découverte, donc en 1947, les plus anciens manuscrits de la Bible que nous avions à notre disposition dataient du Moyen-Âge. Grosso modo, au XIXe siècle, on trouve des manuscrits, une Bible hébraïque complète qui date environ de 1000 ans après Jésus-Christ, ou bien une Bible grecque à peu près complète qui date du 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ. Mais ça veut dire que pour les livres de la Bible hébraïque, eh bien, on n'avait qu'une traduction grecque. ce qu'on espérait avoir, c'était l'original en hébreu, mais de l'époque de la rédaction de la Bible. Et là, les manuscrits de la Mer Morte nous permettent de faire un bond de 1000 ans en arrière pour nous plonger au cœur de l'époque de rédaction de la Bible.
Grâce à des méthodes scientifiques, vous allez pouvoir un peu nous dire lesquelles, on a la confirmation que beaucoup de ces manuscrits datent de l'Antiquité.
La question de la datation de ces manuscrits et même de leur authenticité se pose dès le départ. À l'été 1947, quand le premier rouleau circule dans la vieille ville de Jérusalem, personne ne veut y croire, personne ne veut le regarder. On dit « c'est un faux, c'est pas possible ». Il va falloir attendre plusieurs mois avant que un savant israélien, Eléazar Soukenik, se dise « non mais attendez, cette écriture-là, c'est une écriture du tournant de notre ère ». Un peu plus tard, un Américain à Jérusalem va faire le même constat. Et là, on se dit « ah mais en fait, ces manuscrits sont authentiques, d'une part, et d'autre part, sont anciens ». Comment dater ces manuscrits? Il y a d'une part la forme des lettres. On se dit, mais on ne trace pas les lettres de la même manière en fonction des époques. Les meilleurs parallèles sont du tournant de notre ère. Et d'autre part, l'autre méthode de datation, c'est le carbone 14. Une technologie qui vient à peine d'être inventée. À la fin des années 40, on dit, ah mais attendez, il y a un savant américain qui a une idée selon laquelle on pourrait dater tous les résidus organiques, etc. Et si on faisait ça? Alors on prend des tissus, pas les manuscrits eux-mêmes parce qu'on ne peut pas les détruire, mais on prend les tissus dans lesquels le lin, des tissus de lin dans lesquels ces manuscrits étaient enveloppés. La datation du lin, des tissus, permet de les faire remonter au tournant de notre ère. C'est comme ça qu'on a la preuve, déjà à l'époque, que ces manuscrits sont bien authentiques et qu'ils sont très anciens.
Combien de temps a-t-il fallu pour classifier et déchiffrer l'ensemble de ces fragments?
Le travail de déchiffrement et de classification a pris des dizaines d'années. Le premier volume paraît en 1955, donc pas trop longtemps après. Et c'est très intéressant de lire que le responsable dit « oh, il va falloir quelques années, hein, il imagine quelques autres volumes. On imagine qu'il va falloir 4-5 volumes. Finalement, il en faudra 40. 40 volumes dans la collection officielle, des gros volumes très épais, très grands. Et ça va se terminer dans les années 2000. Donc, vous imaginez un demi-siècle de travaux pour déchiffrer tous ces fragments, reconstituer les puzzles. Et d'une certaine manière, le travail n'est pas fini. Parce que moi, je vois par exemple dans mon quotidien d'études des manuscrits, à chaque fois que je m'intéresse à un manuscrit, je vais regarder les photos maintenant, on a des photographies numériques, haute résolution, en imagerie multispectrale, etc. Donc c'est formidable. Et là, pas une seule fois, je me dis, l'édition qui a été faite il y a 30 ans est correcte. À chaque fois, je trouve des erreurs. À chaque fois, je dis, ah mais non, ce mot-là a été mal lu, ce fragment-là a été rapproché de tel autre fragment, alors qu'en fait, ils ne doivent pas être collés ensemble, etc. Il y a vraiment un gros travail. Il faut reprendre à frais nouveaux l'édition des manuscrits de la Mer Morte.
Lors de ces découvertes, on a pu voir que certains textes dépendaient des rites d'une communauté juive de Qumran, les Esséniens. Est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient les Esséniens?
Oui, les Esséniens. Alors, on ne sait pas grand-chose sur les Esséniens. On a quelques sources d'informations de l'époque. Celui qui en parle le plus, d'une certaine manière, c'est Flavius Joseph, un auteur juif de la fin du 1er siècle de notre ère. Également, bon, on a aussi des documents chez Philon d'Alexandrie, etc. Pour faire simple, on nous explique qu'il y a trois grands mouvements, trois grandes branches au sein du judaïsme à l'époque. Les Sadducéens, les Pharisiens, les Esséniens. Les Sadducéens sont ceux qui sont proches du pouvoir au temple, pouvoir sacerdotal, les prêtres, les grands prêtres, etc. Les pharisiens, eux, sont en réaction contre eux, sont des gens qui s'imposent une forme de légalisme en étendant un certain nombre de régulations, en ayant d'ailleurs davantage de livres dans leur Bible que les Sadducéens, qui eux n'avaient que le Pentateuque, les cinq premiers livres, la Torah de Moïse. Et puis il y a les Esséniens, dont on nous dit qu'eux, ils ont effectivement des rites qui leur sont propres, des croyances, un intérêt tout particulier, peut-être pour une approche un peu plus mystique, pourrait-on dire. On nous dit qu'ils s'intéressent au nom des anges, voyez, donc des révélations divines, comme on en trouve par exemple dans le livre d'Enoch, où on nous raconte le récit de la chute des anges, hein, ces fameux anges déchus qui descendent sur terre, qui s'unissent à des femmes, etc. Et on nous parle de la fin des temps et de la venue du Messie. Donc c'est pour vous brosser un petit peu le portrait de ces Esséniens tels qu'on peut les connaître par ces sources antiques.
Pourquoi ces manuscrits ont-ils été cachés dans des grottes?
D'abord, la réponse ne peut pas être unique parce qu'il y a deux types de grottes. Il y a d'une part des grottes naturelles, En fait, c'est la falaise hein, qui est juste à côté de Qumran. Et donc, ces grottes, elles sont là, elles sont préexistantes. On sait que des gens habitaient même dans ces grottes. Il y avait ce qu'on appelle une occupation troglodyte. Des gens qui avaient des chambres, des pièces, ils dormaient là, ils vivaient là, ils mangeaient là. Et donc, après tout, pourquoi ne pas aussi avoir des manuscrits à disposition ? On a aussi des plus petites grottes où on se dit peut-être que c'était des cachettes. Et puis, il y a effectivement des grottes à même le site. Sur le site de Qumran, mais là, cette fois-ci, en sous-sol, un peu comme une cave chez vous. Si vous avez une cave en sous-sol, vous descendez, vous allez entreposer des choses dans la cave. Et là, il faut les creuser, ces grottes. Vous voyez, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on peut imaginer un scénario pour ce qui est des grottes naturelles où les manuscrits auraient été cachés à la va-vite. On se dit, l'affaire se déroule vers l'an 70 après Jésus-Christ, c'est la guerre avec les Romains détruisent le temple à Jérusalem, les insurgés fuient Jérusalem en direction de la mer Morte, tout ça se terminera à Masada, la forteresse de Masada au sud de la mer Morte, mais sur la route, il y a Qumran, des grottes, et on peut tout à fait imaginer qu'on est caché dans ces grottes, des rouleaux, pour éviter qu'ils ne soient brûlés dans l'incendie du temple à Jérusalem, en se disant, on viendra les récupérer plus tard. Mais ça va si on, pour les grottes naturelles. On a les armées romaines aux trousses, on ne va pas prendre le temps de creuser des grottes en sous-sol. Pour ce qui est des grottes en sous-sol sur le site lui-même, il faut à mon avis plutôt les voir comme des pièces qui servent à entreposer, à stocker. Et donc on a émis l'hypothèse que peut-être c'était une sorte de cimetière à manuscrits. On les entrepose là parce qu'ils sont trop vieux pour être utilisés ou alors que c'était des archives. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'aller consulter telle ou telle version de tel ou tel livre, eh bien, un peu comme aujourd'hui, on a des historiques dans les logiciels, vous avez un historique de versions différentes d'un même fichier ou d'un même logiciel, eh bien, on avait des versions différentes, peut-être du même livre, et il suffisait d'aller les chercher là, dans une de ces grottes. Alors, tout ça reste hypothétique. On n'a pas encore de réponse à cette question, ça fait partie des mystères à élucider.
À Qumran, on a aussi retrouvé certains encriers qui attestent l'existence de scribes. Donc, est-ce que ce seraient les scribes qui auraient donc rédigé une partie de ces textes ?
Oui, moi je suis assez convaincu qu'une partie des manuscrits découverts à Qumran ont été copiés. Un élément intéressant, c'est aussi un petit tesson de poterie qui est inscrit. Alors c'est classique, hein, vous avez une jarre, vous voulez mettre dessus, un peu comme aujourd'hui, vous avez votre pot de farine, votre pot de sel, et il y a marqué dessus farine, sel, ou bien vous mettez le nom du propriétaire. Donc c'est assez classique d'avoir des noms ou des mots sur des jarres. Mais en général, ce sont des grosses lettres, un petit peu maladroites, parce que ça n'est pas écrit par des scribes professionnels. Or là, on a un débris de poterie avec une écriture extrêmement fine, réalisé par un scribe professionnel. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un élément clé pour se convaincre de la présence de scribes professionnels sur place à Qumran. Donc, dès lors qu'on a des scribes professionnels sur place et que sur place, on a également des manuscrits, il paraît logique d'imaginer que ces manuscrits ont pu être copiés sur place. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont tous été, cela dit, parce qu'on a également pu faire des analyses tout récemment, hein, dans le cadre d'un projet dans lequel j'ai travaillé avec un projet international, on a mis en évidence le fait que, d'une part, certaines de ces jarres à manuscrits, les fameuses jarres qui étaient censées contenir ces rouleaux, en fait, n'ont pas été produites sur place. On a fait une analyse de l'argile qui a permis de fabriquer ces jarres et on s'est rendu compte que l'argile ne venait pas des abords de la mer Morte, d'une part. Et de l'autre, on a aussi fait des analyses chimiques sur les parchemins eux-mêmes et notamment les procédés de fabrication des parchemins à partir de la peau animale. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, parmi les manuscrits de la mer Morte, au moins 3 procédés différents de fabrication qui, pour ce qu'on en sait dans l'Antiquité, étaient des traditions, des écoles, on va dire, qui venaient de pays différents, de régions différentes. Donc tout ça nous pousse à conclure qu'une partie des manuscrits découverts à Qumran venaient d'ailleurs, et pour certains même peut-être de très loin.
Thank you.
vous avez parlé de copies, Michael Langlois, donc ça veut dire que les scribes, pour vous, étaient des copistes, pas des auteurs.
J'ai dit effectivement qu'ils ont copié ces manuscrits, dans le sens où je pense que ce ne sont pas les premiers auteurs de ces œuvres littéraires. Mais vous avez raison de me donner l'occasion de nuancer mon propos. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense que c'était uniquement des copistes dont la mission était de reproduire à l'identique un modèle. Ça, c'est une tâche que l'on trouve ailleurs et à d'autres époques plus tard, notamment dans la copie des manuscrits bibliques. Mais quand on regarde les manuscrits de la Mer Morte, on voit tout le travail éditorial, c'est-à-dire qu'on voit des insertions, des annotations dans la marge, parfois un bloc de texte qui est déplacé, etc. Donc les scribes de Qumran sont plus que des photocopieuses humaines, ce sont des penseurs, des littéraires, des gens qui réfléchissent à la transmission du texte biblique, et pour eux, transmettre le texte biblique, ça ne veut pas dire le copier à l'identique, ça veut dire réfléchir à la façon dont le texte aura un impact auprès des lecteurs, y compris s'il faut le modifier, pour l'améliorer, remplacer un mot par un autre, remplacer une formule, etc. C'est-à-dire vraiment parfaire le texte pour que le texte puisse avoir un impact maximal, on pourra dire, sur les lecteurs. Je pense que c'est ça que les scribes de Qumran souhaitaient faire.
Michael Langlois, quelle était la place des scribes dans la société? Savoir écrire, c'était quand même l'intelligentsia un peu de l'époque.
Oui, effectivement, il ne faudrait pas imaginer que tout le monde à l'époque savait lire et écrire et que l'alphabétisation était celle que nous connaissons aujourd'hui, où tous les enfants apprennent à lire et à écrire à l'école. Je disais tout à l'heure qu'on distingue bien l'écriture de quelqu'un qui va écrire sur une jarre son contenu ou son nom, et on a une écriture un petit peu maladroite, pourrait-on dire, et l'écriture d'un scribe professionnel, une écriture notariale qui montre que c'est son métier d'écrire. C'est vraiment un vrai travail. Moi, par exemple, je serais incapable d'écrire aussi bien que les scribes de Qumran. Donc, il faut effectivement bien distinguer les deux. Cela étant, je pense qu'il n'est pas inutile de préciser que le judaïsme faisait figure d'exception au sein de l'Empire romain, à l'époque de Qumran, hein, donc c'est l'époque de l'Empire romain, parce que grâce à l'invention des synagogues, qui est une invention toute nouvelle, hein, pour ce qu'on en sait, les premières synagogues, c'est premier siècle avant Jésus-Christ, hein, vous voyez, donc c'est tout nouveau. Ces synagogues étaient des lieux de formation qui servaient des lieux, on va dire, des salles polyvalentes qui servaient à peu près à tout, on va dire, même la réunion du syndic de copropriété de l'époque ou de l'équivalent, si vous voulez, mais également un lieu de scolarisation. Et donc, au sein du judaïsme à l'époque, les enfants apprenaient à lire et à écrire, ce qui était quand même assez rare.
Michael Langlois, vous avez entrepris un travail photographique avec des filtres magnétiques sur plusieurs de ces fragments et vous avez donc découvert des modifications apportées par les scribes. Et comme vous le disiez, donc ils étaient dans cette logique d'amélioration du texte. Comment est-ce qu'ils modifiaient le texte ?
Les modifications qu'on observe sur les manuscrits de la Mer Morte par rapport au texte biblique sont de plusieurs ordres. Parfois, il s'agit simplement de modifications orthographiques, toutes simples. Aujourd'hui, nous, quand on apprend à écrire, on nous dit que c'est comme ça qu'on orthographie un mot et l'orthographe ne bouge pas. Sauf s'il y a une réforme de l'orthographe et que là, on nous explique qu'au lieu de mettre PH, on va mettre F ou j'en sais rien. À l'époque, il n'y a pas d'autorité centrale qui va dire c'est comme ça qu'il faut orthographier les mots. Et en plus de ça, dans l'écriture hébraïque et araméenne, on ne note pas systématiquement les voyelles. Donc, l'orthographe elle-même, il y a un enjeu autour de l'orthographe parce que selon l'orthographe qu'on va adopter, la personne qui va lire le manuscrit pourrait confondre un mot avec un autre. Donc, on voit un souci de certains scribes de dire « moi, je vais noter davantage les voyelles », par exemple. Donc ça, c'est une des caractéristiques d'un certain nombre de manuscrits de la Mer Morte, c'est d'avoir une propension à multiplier ce qu'on appelle les mères de lecture, donc l'usage de voyelles en hébreu ancien, pour bien lever toute ambiguïté quant à la prononciation des mots. Donc ça, c'est très intéressant. Et vous allez me dire « ça ne mange pas de pain », enfin, ça ne va pas très très loin. Après, on voit aussi des modifications de vocabulaire. On remplace un mot par un autre. Ça peut être remplacer un mot ancien, un peu désuet, par un mot plus récent. On a le cas parfois même où un mot hébreu ancien est remplacé par un mot perse. Alors si c'est un mot d'emprunt, pourquoi remplacer un mot hébreu par un mot étranger ? Parce que apparemment à cette époque-là, finalement, on avait perdu le sens de ce mot ancien et tout le monde utilisait ce mot-là. Un peu comme en français aujourd'hui où tout le monde utilise des mots anglais, parking, est-ce que tu as trouvé un parking pour ta voiture ? Bon, voilà, c'est un anglicisme, mais on constate que c'est ça, comme ça que la langue a évolué et donc on fait évoluer les manuscrits avec la langue. Et ça, c'est très très intéressant pour l'étude linguistique, de la linguistique historique, l'évolution de la langue hébraïque dans l'Antiquité. Et puis, il y a aussi une volonté, parfois, de faire en sorte que le texte soit plus percutant d'un point de vue même théologique. Le message que le texte fait passer. Évidemment, ce sont des manuscrits religieux, on nous parle du rapport des humains avec Dieu, de ce que Dieu attend de nous, de ce que nous pouvons faire, etc., etc. Donc, dans une histoire, on va dire que Dieu va se manifester, par exemple, pour aller au secours de son peuple, eh bien, si on est dans une situation où le peuple est désespéré et essaye tant bien que mal de se battre contre ses ennemis, eh bien, on va vouloir insister sur le caractère miraculeux ou prodigieux de l'intervention divine. Donc, peut-être, on va utiliser un vocabulaire encore plus fort, encore plus saillant. On va ajouter même parfois une phrase, un verset pour dire « Mais Dieu a encore fait bien d'autres choses, etc. » Vous voyez, on ajoute, on améliore le texte, l'idée étant que le lecteur, quand il va hériter de cette nouvelle version du texte biblique, comprenne tout de suite ce qu'on essaye de lui dire.
Est-ce qu'on sait sur combien d'années environ les textes ont-ils été écrits ?
Les manuscrits de la Mer Morte eux-mêmes couvrent une période, on va dire, d'un demi-millénaire, à peu près. On dit souvent 3e siècle avant Jésus-Christ, 2e siècle après Jésus-Christ. Il est possible que certains fragments soient un peu plus anciens que ça, 4e voire 5e siècle, mais malheureusement, on n'a pas encore fait de datation carbone 14 qui nous permettrait d'en avoir le cœur net. J'espère que ça va être fait. Ça, c'est la période de copie des manuscrits de la Mer Morte. Les livres, les œuvres littéraires qui sont, elles, copiées, qui sont écrites par ces scribes, sont pour certaines manifestement plus anciennes. Alors, c'est difficile de les dater puisque, justement, on n'a pas de manuscrits plus anciens. Mais quand on fait une analyse linguistique notamment, on peut repérer des variantes linguistiques, des langues, des langues un peu plus archaïques. Et donc, certains textes de la Bible pourraient remonter, mille ans avant Jésus-Christ, pourquoi pas même certaines traditions du deuxième millénaire avant notre ère. Après, se pose la question, évidemment, de savoir est-ce que c'était uniquement des traditions orales ou est-ce qu'il y avait déjà une mise par écrit à cette époque-là. On reste dans le domaine de la spéculation tant qu'on n'aura pas trouvé de manuscrits plus anciens.
Et est-ce qu'on a une idée du nombre d'auteurs, de scribes et d'autres qui auraient pu travailler sur ces textes ?
Le nombre de scribes est difficile à établir. Si on s'intéresse au site lui-même, il n'est pas très grand, donc on peut pas, c'est pas des centaines de personnes. Si on regarde maintenant l'écriture, chaque personne a sa propre écriture. Moi, je peux distinguer l'écriture de mon père et celle de ma mère, par exemple. Donc, si on a une approche un peu fine, on va repérer en disant « Tiens, mais tel manuscrit a été copié par la même main, par le même scribe que tel autre manuscrit. » Et on se rend compte que certains scribes ont copié des dizaines de manuscrits de la Mer Morte. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'avec un volume, je disais tout à l'heure, il y a à peu près un millier de manuscrits de la Mer Morte, si chaque scribe copie des dizaines de rouleaux, il suffit d'avoir quelques dizaines de scribes. Or, là, on a l'impression qu'on a plusieurs centaines de scribes différents quand on compare les différentes écritures. Alors, on est un peu embarrassé par ça et on n'a pas encore la réponse. Il y a deux hypothèses de travail. L'avenir nous dira laquelle est la bonne. Une qui consiste à dire, en fait, il y a effectivement énormément de scribes et donc tous n'habitaient pas sur place. Et donc, toute une partie des manuscrits viennent d'un peu partout. Et ils ont été rassemblés là, mais ils viennent d'ailleurs. Ou bien de se dire, si une bonne partie de ces manuscrits ont été copiés sur place, c'est qu'un même scribe a évolué dans son écriture entre le début de sa carrière de scribe, quand il avait 20 ans, et puis plus tard, quand il en a 50, 60. Voilà, et on a l'impression que c'est une écriture différente, mais en fait, c'est la même personne qui a copié ces manuscrits, ce qui permettrait de réduire le nombre de scribes. Donc, c'est une très très bonne question, mais malheureusement, la réponse, on ne la connaît pas encore très bien, c'est un petit peu mystérieux.
Sur un plan pratique, est-ce que ça prenait beaucoup de temps de justement copier un texte ? Je ne sais pas, une page, on mettait combien de temps à écrire une page à l'époque ?
Copier une page, c'est pas très très long, même si on est soigneux. Alors, il y a des scribes qui ont une écriture qu'on appelle cursive. C'est-à-dire, ils essaient d'écrire très très vite, sans trop lever le calame, en enchaînant les lettres, un peu comme nous quand on écrit l'écriture attachée. Vous voyez, quand on écrit en attaché, on va évidemment plus vite. Et puis, il y a ceux qui font des lettres bien soignées. Donc, imaginez quelqu'un aujourd'hui qui écrirait en caractère d'imprimerie, en lettres majuscules, en détachant bien son stylo à chaque fois. Forcément, ça met plus de temps. Ça veut dire qu'une page va vous prendre plusieurs minutes, voire une heure ou deux, etc. Ça veut dire que quand vous avez un rouleau qui fait plusieurs mètres de long, il faut se dire, ça a pris quelques semaines quand même. C'est un gros, gros travail de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, effectivement.
Quelles sont les langues qu'on retrouve parmi les manuscrits de Qumran ?
Les manuscrits de Qumran sont rédigés dans trois langues. La langue principale, c'est l'hébreu. C'est la langue ultra majoritaire. Ce qui fait sens puisque c'est la production littéraire du judaïsme et les Hébreux parlent hébreu, c'est leur langue, donc il n'y a rien de surprenant à cela. Sauf que ce qu'on voit aussi, c'est que la langue hébraïque, elle évolue, qu'elle a évolué au fil des siècles. Mais c'est le cas de n'importe quelle langue vivante. C'est même le propre d'une langue vivante d'évoluer. Et c'est précisément aussi pour ça qu'on sait que l'hébreu est resté une langue vivante. Parce qu'il y avait des théories au 19e siècle en disant mais finalement l'hébreu était déjà une langue morte à l'époque, etc. Grâce aux manuscrits de la Mer Morte, on sait que non, l'hébreu est resté une langue vivante, en tout cas à Jérusalem et dans sa périphérie. La deuxième langue, c'est l'araméen. C'est pas très surprenant non plus, puisque l'araméen est devenu la langue international, pourrait-on dire, à partir du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc pendant plusieurs siècles, on parlait araméen depuis l'Ouzbékistan à l'est jusqu'au sud de l'Égypte, voyez, à l'ouest et au sud. Donc si vous voulez, l'araméen était une langue internationale et toute une partie de la communauté juive est passée à l'araméen de façon tout à fait naturelle. Donc il est normal qu'on trouve des textes en araméen. Et puis enfin, la troisième langue, c'est le grec. Là encore, rien de très surprenant à cela, puisque on sait qu'après la conquête d'Alexandre le Grand, au 4e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, le grec s'impose comme langue internationale dans tout le bassin méditerranéen. Donc si vous voulez, c'est un peu l'équivalent, on dirait aujourd'hui, de l'anglais. Donc il est tout à fait normal également de trouver des manuscrits en grec à Qumran. Hébreu, araméen, grec, c'est le reflet de la réalité linguistique de l'époque.
Les manuscrits de la Mer Morte étant contemporains de la naissance du christianisme, Michael Langlois, est-ce qu'on a trouvé des textes du Nouveau Testament à Qumran ?
Oui, bien sûr, on peut se poser la question puisque les manuscrits de la Mer Morte sont contemporains de la naissance du christianisme. Ça a été proposé à plusieurs reprises, des petits fragments grecs, notamment dans une des grottes, la numéro 7, en disant « mais je crois avoir un petit fragment de tel évangile ou de tel épître ». Bon, finalement, ces hypothèses ont été abandonnées. À ce jour, il n'y a pas, à notre connaissance, de manuscrits du Nouveau Testament à Qumran. Mais on pourrait l'imaginer, puisque à Qumran, on a des manuscrits jusqu'au début du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc on est en plein dans l'époque de rédaction du Nouveau Testament. Alors si on n'a pas de manuscrits du Nouveau Testament, ça ne veut pas dire pour autant que Qumran n'a rien à nous apprendre sur le Nouveau Testament, puisque en fait, bon nombre de discours, de croyances qui sont reflétées dans le Nouveau Testament, des paroles qui sont mises dans la bouche de Jésus, de Jean le Baptiste, de l'apôtre Paul, etc., en fait, on retrouve peu ou prou le même discours dans les manuscrits de la Mer Morte. Et ça nous montre que ce mouvement de Jésus, de ses disciples au 1er siècle de notre ère, est bel et bien un mouvement bien ancré dans le judaïsme de l'époque, un judaïsme qui était à l'époque différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, mais qui avait des parallèles assez flagrants, y compris même des expressions qui étaient un petit peu obscures, l'apôtre Paul qui parlait des trois filets de Bélial, on se dit mais de quoi parle-t-il ? Cette expression, on a exactement la même dans le Nouveau Testament, ça n'est évidemment pas une coïncidence.
Ce que vous nous dites, c'est que finalement, le Nouveau Testament s'inscrit dans une continuité, une même tradition que celle de l'Ancien.
Oui, tout à fait. Le Nouveau Testament, en fait, c'est un ensemble de livres qui sont la production littéraire du judaïsme du 1er siècle de notre ère. Une production littéraire en grec, certes, sauf qu'on peut quand même se poser la question d'un évangile en hébreu ou en araméen sous-jacent, mais qu'on a perdu. Mais en tout cas, de la production littéraire du judaïsme du 1er siècle, tout comme je parlais tout à l'heure de Philon d'Alexandrie, de Flavius Joseph, qui sont des auteurs dont on a les écrits en grec. On appelle ça la littérature judéo-hellénistique. Et donc le Nouveau Testament fait partie de cette littérature et doit être lu de cette façon-là.
Michael Langlois, interviewé par Lénora Krief. Nous poursuivrons demain cet entretien dans le prochain épisode d'Histoire vivante.
Histoire vivante, une émission de Laurent Huguenin-Elly en collaboration avec Frédéric Pfiffer de l'unité des films documentaires de la RTS ainsi que le quotidien La Liberté. Réalisation Isabelle Barthes. Attachée de production Corinne Rochat, Daniel Zacker. Histoire vivante est à retrouver toute la semaine à 13h30 sur La Première et à podcaster en tout temps sur rts.ch ou à réécouter sur l'application Play RTS.